Donc, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Centre Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, une vieille histoire qui date même d'avant 2003. On va en parler. 20 ans de relation. On a fêté notre 20e anniversaire de relation. Alors, évidemment, avant 2003, c'était un peu comme les gens qui vivent ensemble avant de se marier, quoi. Il fallait bien qu'on essaye quelques petites tentatives d'action. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce jumelage et de la façon dont ça s'est construit. Je vais quand même vous avouer qu'avant de travailler au Centre Hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, je travaillais au Musée des Beaux-Arts. Et que du coup, voilà, je porte une forme de continuité aussi de ce projet, puisque la personne qui est de dos sur l'image et qui était encore jeune et belle à cette époque-là, c'était moi, et que j'animais à l'époque des visites et des animations avec les enfants, et que les premières visites ont eu lieu en 1998. C'est à la demande de l'institutrice de l'hôpital qui s'occupait des enfants malades à mi-temps dans le temps pour essayer de maintenir une continuité du temps scolaire. C'est elle qui a sonné à la porte de l'hôpital en disant « Est-ce que je pourrais venir avec les enfants pour visiter l'institution ?» Et en fait, j'ai été donc on m'a sollicité au sein de l'équipe pour accueillir ces enfants. Des visites qui vont devenir régulières, un vrai plaisir à accueillir ces enfants qui ont un regard totalement différent sur les œuvres, sur le lieu, sur les espaces, etc. Et puis, y aura quelques années comme ça, un peu d'expérimentation très petite, très modeste, avec un groupe d'enfants, un groupe d'adolescents. Quand je dis un groupe, c'est 3-4 enfants et adolescents. Et puis, c'est l'époque, donc 98, c'est un an avant la fameuse convention culture à l'hôpital qui va être signée entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Et le directeur du musée va un jour nous dire « Et pourquoi vous n'inscririez pas ce travail, cette expérience dans le cadre de ce partenariat plus institutionnel, on va dire ?» Bon, ça va mettre quelques années encore. Et puis, en 2003, on débute un projet de ce qu'on appellera le jumelage. Un jumelage, c'est-à-dire vraiment un couplage entre nos deux institutions. C'est en tout cas comme ça qu'on l'imagine et qu'on le désire. Et le médecin chef du secteur de pédopsychiatrie dont dépend la petite école qui est venue en premier, Marc Zimmermann, va avoir une idée un peu de génie. Il va dire « Il y a dans l'hôpital, depuis 20 ans déjà, des acteurs qui sont un peu à la charnière du monde de la culture et du monde de la santé. Ce sont des artistes qui interviennent, qui mènent des ateliers depuis 20 ans déjà. » Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas appui sur eux aussi pour nous aider dans ce va-et-vient entre ces deux institutions qui sont quand même très différentes? Alors, on commence un peu des rencontres régulières. On apprend à se connaître entre professionnels de la santé et professionnels du musée. On n'a pas tout à fait les mêmes vocabulaires, on n'a pas tout à fait les mêmes visions du monde, mais on va apprendre à se connaître dans le temps. Et c'est cette temporalité qu'on aimerait aussi vous dire. En 2006, hein, on ponctue de façon un peu rapide, hein, mais en 2006, il va y avoir un temps fort. C'est un colloque qui va s'intituler « Art, culture et soins psychiques » qu'on organise avec, donc, entre le musée et l'hôpital l'organise. Vous voyez, il y a la photo que j'ai retrouvée qui montre un petit peu tous les acteurs qui font partie de ce comité de jumelage, qui sont composés donc de soignants, de médiateurs culturels et d'artistes intervenant dans l'hôpital. Et puis, à ce moment-là, on va mettre en place un outil de va-et-vient, une sorte d'objet transitionnel, comme disent les psychologues, puisque du coup, je me suis métissée à cette culture pour essayer de permettre ce va-et-vient entre nous. Et cette valise ressources, elle va être vraiment intéressante parce qu'elle va jamais être très, elle va jamais très bien marcher. Hein. Si on regarde, si on évalue, alors quantitativement, c'est une catastrophe quand on compte le nombre d'heures par rapport à la portée de la chose. Mais en fait, ça a été très très fort comme expérience parce que cette valise jumelage, elle va donner envie à l'hôpital de garder des traces de son passé. Elle va donner envie à l'hôpital de mettre à un endroit en sécurité des photos, des ouvrages, des traces de toute cette ouverture vers l'art qui s'est passée depuis déjà 20 ans quand nous, on commence le partenariat. Quatrième, en 2009, on arrive à éditer un carnet. Alors, j'aurais dû en prendre un. Vous en trouverez là-bas à l'entrée, un carnet rouge et orange que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Chemin faisant » et qui est un carnet qu'on avait intitulé « Carnet numéro 1 du jumelage ». On espérait en faire tous les ans plein et puis je ne sais pas pourquoi, on a manqué de temps. Et du coup, je vous invite à en prendre. Hein, on en a encore pas mal d'exemplaires, donc il ne faut pas hésiter. Et ce carnet va essayer de restituer quelque chose de cette aventure à deux voies qui se développe entre l'hôpital et le musée avec ces artistes à l'interface. Je continue à avancer. Donc, dans la foulée, en 2010, pour la première fois, on voit apparaître un dispositif dont Marion vous parlera tout à l'heure, qui est un dispositif qu'on va intituler jeu de détails. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de trucs qui s'appellent jeu de quelque chose depuis ce matin. Et jeu de détails, c'est voilà, des détails d'œuvres qui vont être réalisés et qui vont permettre de circuler à travers les institutions partenaires du musée, mais je ne vais pas plus loin puisque Marion en parlera. Et puis 2012, en fait, je trahis définitivement le musée et je vends ma force de travail à mon partenaire puisque je quitte le musée et je pars travailler à l'hôpital qui, en fait, a pris beaucoup appui sur ce jumelage pour construire son comité d'action culturelle et pour coordonner ou pour développer son projet culturel, projet qui est encore complètement éclaté et complètement un peu dans tous les sens. Séverine pourrait en témoigner puisque vous lisez déjà, je pense, les dossiers à cette époque-là. Et c'était un peu, c'était très... Très, on va dire, c'était une sorte de pratique amateur du projet culturel du côté de l'hôpital, et que tout d'un coup il y a eu une sorte de volonté un peu de professionnaliser ce travail-là, et donc il y a eu ouverture d'un poste à mi-temps, ce qui n'est quand même pas rien dans les économies que nous vivons, et qui a été un gros enjeu vis-à-vis aussi d'un hôpital qui est toujours aussi à souhaiter plus de postes dans ses missions premières, que de voir un petit poste comme ça arriver pour coordonner quelque chose qui était un peu secondaire, au moins dans les apparences. Bien sûr, je vais défendre quand même. Voilà. Donc à partir de 2014, il y a une nouvelle forme qui apparaît. En fait, vous voyez déjà à travers un petit peu ce que je raconte depuis tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de types de choses qui ont pu se développer entre le musée et l'hôpital. Et ce qu'on avait envie de dire et sur lequel on avait envie d'insister avec Marion, c'était la durée. C'est-à-dire que 20 ans, c'est le bel âge, hein, et c'est finalement une temporalité un peu minimum pour un partenariat sérieux, on va dire. Je vous le dis pour ceux qui commencent. Et on a 40 ans de vie professionnelle, donc on a tout notre temps. Et donc, c'est bien en fait de se projeter aussi dans une temporalité comme ça un peu longue, même si au début, en fait, on ne s'est pas autant projeté que ça. Mais en fait, c'est vraiment ce temps-là qui est vraiment chouette quand on travaille dans des institutions de service public. C'est-à-dire que si on n'utilise pas aussi ces institutions dans le terme fort de ce qu'elles portent, c'est-à-dire d'être des piliers aussi un petit peu de la société dans laquelle on est, un pilier du soin d'un côté, un pilier de la mémoire et du conservatoire des arts de l'autre côté, si on ne s'apprend pas appui là-dessus pour essayer de travailler des formes un peu dans la durée, je ne vois pas sur quoi on pourra s'appuyer dans des sables mouvants qui sont les nôtres. Voilà, donc en 2014, pardon, j'ai sauté la date, donc on a commencé une nouvelle petite forme d'action qui est très intéressante et que maintenant qui est un peu rentrée dans notre rituel annuel, on va dire, qui est qu'en fin d'année, donc il y a des visites qui sont organisées, bien sûr, on accueille des enfants, maintenant on accueille bien sûr des adultes, de chaque année à peu près une dizaine d'unités de soins de l'hôpital qui viennent au musée une, deux, trois fois, ça dépend des projets. C'est des soignants qui viennent une fois par an rencontrer l'équipe des médiateurs pour monter leur projet annuel. Et puis, du coup, dans l'année, il y a des gens qui vont venir plusieurs fois au musée ou une seule fois selon les possibilités aussi. Et à la fin de l'année, en fait, le musée va lancer une invitation pour les personnes qui ont participé aux visites, les adultes. Pour l'instant, on aimerait ouvrir maintenant une autre proposition pour les enfants et leurs familles, mais là, c'était les adultes en leur disant, vous êtes venus au musée cette année dans le cadre du partenariat entre le musée et l'hôpital, vous êtes venus finalement dans le cadre du temps de soins, hein, avec vos soignants, etc. Mais là, on vous invite en tant que citoyen, si vous avez envie, on vous invite et vous pouvez venir avec votre entourage. Et donc, ça donne lieu à une rencontre à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet, au moment où il fait beau et on peut se prélasser sur la terrasse du musée. D'année en année, on voit à peu près une régularité hein, dans la fréquentation de ce rendez-vous, puisqu'on a à peu près entre 18 et 25 personnes qui viennent et qui reviennent avec la belle-mère, le cousin, le copain, le voisin, pour montrer ce lieu aussi, qui est un lieu qui a été quelquefois découvert dans l'année ou qui est déjà fréquenté depuis plusieurs années et qui touche à quelque chose, une corde sensible. En 2014-2015, il y a des visites qui sont animées par une médecin de l'hôpital, co-animée avec les médiateurs du musée, sur le thème de la maternité et la douleur. Et ça donne lieu du coup à une nouvelle ouverture vers autre chose. Il y a aussi des rencontres annuelles entre professionnels qu'on arrive à maintenir, professionnels de la médiation et professionnels du soin, mais aussi professionnels de l'accueil et de la surveillance au musée, qui s'interrogent à travers aussi ce partenariat sur comment on accueille bien des gens qui sont tellement étranges quelquefois et qui ont des comportements qui peuvent être aussi déroutants, aussi bien pour les agents eux-mêmes que pour les visiteurs. 2017, c'est une des grosses actions dernières qu'on a pu faire. C'est un médecin de l'hôpital qui travaille beaucoup sur la question de la douleur hein, dans le soin psychique, c'est-à-dire comment on travaille vraiment sur cette difficulté à surmonter la douleur quand on est en maladie psychique, qui va proposer de faire une journée sur le thème de la douleur dans le musée en prenant appui sur la spécificité du musée, c'est-à-dire ses collections et ses expositions pour travailler la question. Et puis en 2018, c'est l'année dernière et on a fêté les 20 ans. En fait, c'est les agents d'accueil et de surveillance avec qui on a eu une rencontre il y a 2 ans, une rencontre un peu tendue parce qu'il s'était passé un événement assez improbable dans un musée. C'est qu'un des patients de l'hôpital qui avait été accueilli par une médiatrice avait éprouvé le besoin de pisser tout simplement sous un tableau dans le musée et que du coup ça avait provoqué. Quoi ? Oui, sous un tableau qui représente un déluge en plus. Du coup, ça avait provoqué un petit séisme au sein de l'équipe du musée parce que l'agent d'accueil de la salle avait très mal vécu la situation, avait trouvé que la médiatrice n'avait pas été assez sévère, que le soignant avait été, avait porté l'agent d'accueil avait porté des jugements parce qu'elle-même avait été très choquée et très frappée par cet événement. Le conservateur avait dit ceci, la conservatrice avait dit cela. Bon, bref, ça avait fait 3 fois le tour du musée avant d'ailleurs que ça nous parvienne à nos oreilles. Et du coup, on était parti de là pour travailler avec les agents d'accueil à nouveau sur la question de l'accueil, sur qu'est-ce que c'est effectivement, pourquoi est-ce que la médiatrice n'avait pas tapé sur ce pauvre patient qui avait été aussi insultant pour l'ordre du monde. Mais du coup, voilà, ça avait donné lieu à une volonté de la part des agents d'accueil, qui en fait s'était beaucoup renouvelé depuis 20 ans forcément, de revisiter l'hôpital partenaire, ce fameux hôpital psychiatrique. Du coup, on les a invités. Et ça a donné lieu à un très beau moment, comme vous voyez sur l'image, où on a présenté les fameux détails dont parlera Marion tout à l'heure. Donc voilà, on a rassemblé un peu quelques chiffres, parce qu'on sait qu'on aime les chiffres dans notre société toujours avare de mathématiques. Et donc voilà, ça a donné lieu quand même, cette aventure de 20 ans, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Parce qu'effectivement, chaque visite, c'est quelquefois 2 enfants. 5 adultes, c'est très petit, c'est des toutes petites touches, mais c'est dans la temporalité, hein, on transforme le monde à petits pas. Voilà, je continue là ou c'est ouais, c'est encore moi. Donc un partenariat là en la durée, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la construction de la confiance, et ça c'est hyper important, c'est peut-être même le plus important de ce qu'on peut vous dire de notre aventure commune, c'est-à-dire que comment on construit de la confiance entre deux structures qui sont si différentes, qui ont chacune leurs problématiques et chacune leurs problèmes et leurs grosses difficultés, surtout par les temps qui courent. C'est aussi être en appui sur les acteurs. C'est-à-dire la grande force de ce projet, c'est que je pense que c'est d'avoir pris appui sur les soignants de terrain, les médiateurs culturels de terrain, mais aussi les autres acteurs du musée, hein, les conservateurs, les chargés de documentation, les agents d'accueil, etc. Et puis du côté de l'hôpital, les soignants, les patients eux-mêmes avec qui on a pu construire aussi des projets. Des échanges horizontaux, hein, donc un va-et-vient de l'un à l'autre, où on n'est pas l'institution culturelle qui donne avec sa main par-dessus l'autre, mais au contraire, l'institution, elle a besoin aussi de l'hôpital dans ses va-et-vient, d'un lieu à l'autre. Donc ça, c'est très important pour moi, c'est comment les médiateurs du musée viennent à l'hôpital. Hein, c'est pas que la réunion annuelle, elle a lieu à l'hôpital et on s'est rendu compte, on a essayé dans l'autre sens, on s'est rendu compte que ça provoquait beaucoup moins de. Ouais, elle a lieu au musée, pardon. La réunion annuelle en octobre, elle a lieu au musée et une fois on l'a fait à l'hôpital, il y avait beaucoup moins de gens. C'est-à-dire qu'il y a aussi la création du désir. Enfin, il y a vraiment du désir à aller au musée pour les soignants, qui est importante. Mais par contre, ce qui est très frappant, c'est de voir que l'équipe du musée est toujours prête à venir, là, le comité d'action culturelle dans quelques jours, Marion va venir, il ira traverser la ville. Il y a 3 semaines, il y a un conservateur du musée qui est venu animer une conférence. Enfin voilà, un va-et-vient qui se fait simplement. Et puis il y a la coopération et la régularité et les rituels. C'est-à-dire que voilà, c'est ce que nous apprennent aussi les patients psychotiques, c'est qu'on a besoin de rituels, on a besoin de répétitions, on a besoin de régularité dans la relation, et ça se joue aussi autour d'événements. Voilà. Donc, co-construction, bien sûr. Et là, je laisse la parole à Marion.
Donc, je suis médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Lyon. On reçoit nombreux groupes dépendant du champ de la santé, hôpitaux, psychiatriques, gériatriques, du champ aussi médico-social, des CESAD, etc. Et donc le partenariat avec l'hôpital dure depuis 20 ans. Et comme le disait Cécilia, on reçoit des groupes adultes, enfants, parfois très autonomes. Ça peut être des patients adultes qui viennent par leurs propres moyens au musée, qui sont soit dépendants d'hôpitaux de jour, plus souvent de CATTP ou de structures d'accueil à temps partiel. Donc ils viennent, on visite. Parfois aussi, on a travaillé avec des structures, avec des unités de patients déficitaires graves qui, eux, ne se déplacent pas du tout. Et c'est ce qui nous a amené un petit peu à développer ce dispositif de jeu de détails pour aller à la rencontre de ces personnes, pour pouvoir échanger à partir de ces images du musée, aller à la rencontre quand c'était possible pour elles ensuite de venir au musée. Alors ce jeu de détails, vous en avez vu un petit exemple. À l'origine, il n'était pas du tout destiné à ce partenariat. Il a été pensé à l'époque où Cécilia était encore au musée, avec un autre partenaire de longue date, qui était le mouvement ATD Quart Monde, un mouvement qui travaille des personnes dans la grande pauvreté. Et le questionnement était un petit peu le même: comment aller au-devant de ces personnes, comment aller chercher ces personnes très très éloignées du musée, qui n'y venaient jamais. Et on travaillait à l'époque avec des militants. Les militants, ce sont les personnes à ATD qui connaissent elles-mêmes, qui vivent cette grande pauvreté. Donc on était vraiment dans cette idée de la co-construction, comment travailler ensemble à un projet pour amener ces personnes éloignées du musée. Et il y avait la question de la beauté, de rendre visible la beauté du musée ou ces images, ces représentations vers ces personnes. En se déplaçant, alors il y avait l'idée déjà de nous déplacer nous près de ces personnes, et puis d'avoir comme support ce jeu de détails. Donc on a commencé par travailler sur des thématiques. La première thématique qu'on a travaillée, c'était le festin, et c'était lié à un événement particulier qui était la fête de Noël à ATD Quart Monde. On était sur cette thématique du festin. Donc on a fait développer des images de très grande qualité, des photos, des reproductions de détails de nos collections sur cette thématique du festin, qu'on a présenté d'abord dans un premier temps à la maison Quart Monde, et puis ensuite qui était empruntée quand elle le souhaitait par les familles. Et au début, beaucoup de réticence à emprunter ces détails qui représentaient peut-être trop le musée, où il y avait cette idée de pouvoir abîmer le détail. Voilà, à la maison, c'était compliqué, mais ça s'est fait progressivement et les familles, peu à peu, ont emprunté des détails d'œuvres chez elles. C'est des détails qui sont encadrés par l'atelier du musée, qui mesure 60 cm par 40 cm avec les légendes au dos et qui ne craignent rien, recouverts de plexiglas. Et une fois ces détails empruntés, parfois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on allait à la rencontre de ces personnes, dans les familles, parler de ce choix-là avec elles, échanger sur leur choix et sur les œuvres. Donc on a souhaité donc développer ce dispositif également avec Saint-Jean-de-Dieu, et on s'est beaucoup appuyé sur les artistes. Comme le disait tout à l'heure Cécilia, c'est vraiment un appui important pour nous, puisqu'on tisse des liens entre musées, entre médiateurs et puis artistes. Donc on s'est appuyé un petit peu sur les ateliers menés par ces artistes, ateliers plastiques au sein de l'hôpital, qui choisissaient eux-mêmes les détails, avaient tout ce travail en amont avec les patients et les participants de l'atelier. Et pourquoi le détail ? Comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment la question de la beauté. On s'est rendu compte que ce qu'on pouvait choisir nous comme détail, ce qui nous semblait beau, hein, sur la thématique des mains, des visages, n'était pas toujours partagé par les autres. On avait eu l'expérience avec la maison Quart Monde, où on trouvait la femme au médaillon, le buste de la femme au médaillon très beau. C'était cette femme qu'on voyait peut-être précédemment, voilà, le deuxième, les yeux à mi-clos. Et on s'est rendu compte que pour d'autres personnes, ça pouvait évoquer la mort, c'était inquiétant. Donc on voit qu'on ne partage pas les mêmes notions peut-être de la beauté. Donc là, c'était important de pouvoir travailler avec elle sur le choix des œuvres. Donc c'était vraiment ce partenariat-là, ce dispositif. Et donc avec Saint-Jean-de-Dieu, quand les détails étaient empruntés, il y avait tout un travail qui était fait en amont avec les participants de l'atelier qui ne connaissaient pas l'œuvre dans sa totalité, avec des jeux d'échelle aussi très différents, puisque ce qu'on leur proposait était parfois beaucoup plus grand que l'œuvre en elle-même, qu'ils allaient venir découvrir par la suite en visite au musée. Donc un jeu d'échelle différent. Et puis rentrer par le détail, c'est aussi parfois moins angoissant, que d'être face à une œuvre dans sa totalité, dans ses, parfois des dimensions un petit peu plus grandes également. Ça permet vraiment au regard de circuler dans l'œuvre, de pénétrer dans l'œuvre. Et puis, c'est le détail, c'est celui qu'on aime, qu'on choisit, qui attire le regard. On s'était beaucoup appuyé aussi sur la réflexion de Daniel Arras, l'historien de l'art, sur cette approche du détail pour rentrer dans la peinture. Donc il y avait ce deuxième temps au musée où, après avoir travaillé sur les tailles en amont dans les ateliers plastiques, il venait découvrir les œuvres originales au musée. C'était toujours des moments assez forts, assez magiques, parfois difficiles, puisque des personnes face à l'œuvre originale pouvaient avoir des réactions assez vives, ne voulant pas voir l'œuvre dans sa totalité. Je me souviens d'un poisson, une nature morte de Bonnard, qui avait vraiment heurté une des patientes qui ne souhaitait pas du tout le regarder, qui s'était mis dos à l'œuvre. Parfois, c'était des bonnes surprises. Au contraire, on découvrait le reste de l'œuvre. Et puis, voilà, c'était surtout un support d'échange, de plaisir, pour pouvoir exprimer à la fois ses émotions, développer un petit peu son esprit critique autour de ces différentes thématiques. Et je reviens simplement également sur la question du lien, du partenariat, de tisser des liens avec les artistes, puisque tous ces liens, tous ces échanges qu'on peut en avoir en amont, puisqu'il y avait vraiment des échanges au préalable avant ces visites, ça permettait aussi de donner un cadre, une structure, une cohérence, un cadre rassurant pour les patients qui leur permettait aussi de libérer un peu la parole face aux œuvres après. Ils sentaient vraiment cette cohérence entre les artistes et les médiatrices au musée qui permet justement de développer un petit peu tout, d'avoir ces temps d'échange ensemble. On s'insiste aussi sur les œuvres du XXe qui ne sont pas toujours des œuvres faciles à aborder. Le fait de rentrer par le détail, d'avoir du recul, de regarder, avancer, quelque chose qui apparaît peut-être au bout d'un moment, c'est une autre approche qui est assez bénéfique. Alors, on l'a fait pour Saint-Jean-de-Dieu, mais on pourrait encore développer, puisqu'on l'a fait avec d'autres partenaires, ce dispositif. Et voilà, sous d'autres formes, et il fonctionne assez bien.
Bien, merci. On a noté qu'on a retrouvé un thème qu'on avait vu ce matin, qui est là, ici la douleur. Ce matin, c'était des objets médicaux mis pour les patients. Du coup, est-ce qu'on peut se demander peut-être un peu plus loin quel était le rapport des patients à ce thème sur la douleur?
Alors, les patients n'ont pas été très mobilisés autour de ce thème. C'est les soignants. Le colloque qu'on a organisé en 2017, c'était vraiment pour les professionnels du soin. C'était à la fois de faire un état des lieux, des solutions ou du regard aujourd'hui que porte le corps médical sur la question de la douleur dans le soin psychique, tout en faisant écho à la représentation de la douleur à travers l'art. Mais c'était pas tellement à l'adresse des patients. Après, ça peut être des questions qui peuvent apparaître dans les visites ou dans les animations, le fait tout d'un coup que les représentations en images à travers le musée puissent suggérer des choses par rapport à la situation des patients. Mais là, ce n'était pas le cas pour le colloque.
D'accord. Et j'ai une autre question aussi, comme ça, maintenant, qui s'inscrit dans le temps. Est-ce qu'il y a presque une carrière de visiteurs, peut-être, pour certains?
C'est-à-dire des personnes qui reviennent sur la durée.
Qui reviennent sur plusieurs années avec une culture propre en lien de chez eux.
Au moins sur plusieurs années, 2-3 ans, ça arrive que certaines personnes participent à des ateliers dépendants de TATP ou d'autres structures de soins sur 2-3 ans. Donc on peut les retrouver d'une année sur l'autre. Et puis c'est surtout des personnes qu'on va retrouver sur cette invitation du mois de juin où après un petit déjeuner au musée, elles sont invitées à amener leurs proches, leurs amis, leurs familles à découvrir des œuvres. Donc c'est ces personnes-là. Même quand elles sortent, là on a eu le cas de figure en juin dernier où elles ne dépendent plus de l'hôpital ni de ces structures, mais elles continuent d'avoir l'information que ces déjeuners ont lieu, que ces... matinées au musée ont lieu, donc elles ont l'information, elles viennent, continuent de venir avec leur famille, et je pense que l'idée aussi, c'est qu'elles puissent prendre possession du lieu, appréhender un petit peu les collections, se les approprier, et puis elles disparaissent après dans le musée, elles font leur vie, on ne les retrouve pas toujours. Donc je pense que voilà, c'est une démarche qui leur permet d'aller un petit peu au-delà de...
Merci. Est-ce que vous aurez une ou deux questions avant l'intervention suivante?
Donc, bonjour, moi je m'appelle Élodie Béhet, je travaille pour une association qui fait une synchro musicale, donc je ne suis pas très bonne en chant muséographique, mais peu importe. Il y a une question qui m'a interpellée ce matin par rapport à la création du jeu, et là ce que tu viens de dire, bah, Cécilia, par rapport aux usagers de l'établissement, est-ce que, oui ou non, on peut aborder des thématiques en lien avec les choses dont ils sont. Parce qu'en tant que médiateur, on se met souvent des barrières, on n'ose pas aborder certains sujets, les animateurs nous disent. Surtout, on n'aborde pas des questions, des choses qui les ramènent à leur quotidien, des choses qui sont lourdes pour eux. Et on se rend compte quand on travaille avec des artistes, donc moi je fais appel uniquement à des artistes, les artistes osent aller super loin et les bousculer les résidents en face, bien sûr, dans les EHPAD. Et donc je me questionne vraiment sur la question de la thématique, est-ce qu'on peut aborder la question de la souffrance avec les personnes en situation de souffrance ? Où ce matin, à travers le jeu, on voyait qu'on pouvait finalement très bien leur faire voir les objets, les instruments de torture.
Moi, j'ai pensé de poser cette question aussi du côté des représentations des œuvres au musée, parlant de la mort, du deuil, du fratricide, des meurtres, des choses parfois difficiles, des sujets qui peuvent être angoissants. Et dans les échanges avec les professionnels, les psychologues, les psychiatres qui ont travaillé cette question, ils disaient qu'à partir du moment où on rappelle qu'on est dans la représentation, dans une image, et qu'on y met soi-même à distance, c'est-à-dire soi-même on est déjà bien digéré, qu'on a intégré un petit peu ce sujet-là, qu'on y met la distance, qu'on rappelle qu'on est dans la représentation, au contraire, ça peut être des sujets qui parfois peuvent aussi correspondre, faire écho à des souffrances intérieures, des angoisses intérieures. Sans se censurer sur ce sujet-là. Je pense qu'au contraire, c'est que nous, quand on les pratique dans le musée, c'est des sujets qui retiennent un peu l'intention. Alors parfois, ça ne peut pas du tout être possible, me souvenir d'un patient de Saint-Jean-Jeune adulte avec lequel j'ai pu faire un parcours autour de la mort. Il s'est mis à pleurer dès qu'il a vu un homme prier sur une tombe. Ce n'était pas possible à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est. Je crois que s'il y a cette distance, si on rappelle effectivement que c'est des sujets.
Ouais, alors non seulement moi, le petit truc qui fait écho et qui m'amuse par rapport à ta remarque, Elodie, ce qui revient vers moi, c'était la réaction. Effectivement, ça correspond aussi à une vision un peu de l'art comme évasion, ou tant artistique comme évasion, qui fait que il faudrait justement ne pas aborder ce qui fâche, parce qu'on est dans un temps un peu. On est du côté du beau, on est du côté de etc. Ce qui n'est pas forcément en fait le beau et on peut être que ça, et on sait bien quand on connaît un peu les pratiques artistiques, etc. Ce qui me revient, c'est dans le sens, moi ça, ce qui m'avait choqué, c'était quand le médecin avait fait, avait co-animé des visites sur le thème de la douleur d'être mère, et où les chargés de communication du musée, ou plutôt un responsable du musée, avait eu peur de parler de douleur. Et surtout par rapport à la maternité, et du coup avait dit que ça allait être une visite sur la maternité. Et ce n'est pas du tout, enfin c'était un tout petit aspect de la maternité, c'était l'aspect le plus difficile et le plus douloureux. Mais elle avait peur, tout d'un coup, comment, mais on ne va pas parler de choses justement qui fâchent, etc. Donc on retrouve un peu ces questions-là, mais c'est un peu inhérent à ce genre de part, on ne sait pas trop où mettre le curseur, mais je crois qu'il faut effectivement éviter de s'empêcher d'eux, et puis il faut vérifier, les gens sont experts de leur propre souffrance, il faut demander aux patients, il faut demander aux personnes concernées, il faut demander aux usagers.